ceux qui n'ont pas encore reçu les vœux du sanctuaire, nous vous les offrons de tout cœur. Amen. Que Dieu bénisse chacun et chacune qui viennent sur Révélation Bible et aussi sur la télé. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons faire une lecture dans Matthieu 5, 27, 28. Et vous allez comprendre au cours du message pourquoi j'ai choisi ce texte. Vous avez, c'est Jésus qui parle et qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà, je vais vous asseoir. Alors, j'ai des bonnes nouvelles, vous vous rappelez d'Hervé et Myriam. Et je les ai eues au téléphone hier. Myriam attend un bébé. Alors je pense que c'est, on peut applaudir. Ils sont en Guadeloupe toujours, ils pensent peut-être se rapprocher un peu, on va voir comment ça se passe pour eux. Que Dieu les guide, que Dieu les conduise. J'ai aussi des bonnes nouvelles de notre frère Alex Château et de son épouse Anta. Vous avez peut-être lu ceux qui sont sur Facebook, il a été enlevé à un moment au ciel. Il a fait une expérience magnifique, là je vais mettre ça sur la cheminée, je vais l'écrire, et, enfin je vais le copier du moins et je vais le mettre sur la cheminée, c'est très très beau. Il a vécu quelque chose de très très beau et... Voilà, que Dieu le bénisse, c'est magnifique. Amen. C'est toutes des belles choses, ça commence bien l'année. Hein? Je crois que la prédication que je vais vous apporter ce premier dimanche de 2014, c'est un message que le ciel a distillé petit à petit avec le temps sur mon âme, c'est-à-dire sur la personne que je suis. Et je prie que votre attention soit éveillée ce matin pour que vous écoutiez bien, jeunes et vieux, que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire parce que ce que je vais vous dire va avoir des implications immédiates, aussi des implications éternelles. Ma prière, c'est que vraiment le Saint-Esprit soit avec vous, et surtout que vous soyez avec lui, parce que le Saint-Esprit ne peut pas être ailleurs qu'avec vous, il est partout. Mais il faut que vous soyez conscients de sa présence, et que vous soyez instruits par lui pendant ces instants. Parce que mes frères et sœurs, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit dit la vérité. Il parle des choses telles qu'elles ont été réellement. Il parle des choses telles qu'elles seront réellement. Et il parle des choses telles qu'elles sont maintenant, dans la réalité. Il ne ment pas. Et je voudrais ce matin, après on développera un peu peut-être dans d'autres prédications, mais ce matin je voudrais focaliser sur cette dernière phrase. Le Saint-Esprit dit la vérité, il ne ment pas. Et il parle des choses qui sont réellement maintenant. Il y a des clés qui permettent de connaître et de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Il y en a d'autres qui permettent de comprendre les choses telles qu'elles ne sont pas du tout réelles. Quand nous étions seulement des esprits, je dis quand nous étions seulement des esprits, avant de venir dans cette condition mortelle, avant de venir nous incarner, avant de venir sur cette terre, eh bien nous avons accepté le plan de Dieu, ce plan de Dieu selon lequel nous pourrions obtenir un corps physique, et que par le fait, eh bien nous puissions acquérir des expériences sur terre, une expérience qui nous permettrait de progresser vers la perfection. C'est pas que nos esprits étaient imparfaits, mais ils étaient... Il manquait quelque chose. Ce qui manquait, c'était ce côté physique, ce corps. Nous avons donc accepté le plan divin selon lequel nous pourrions obtenir un corps physique pour pouvoir réaliser notre destinée éternelle. Je vous rappelle que Jésus-Christ est ressuscité avec un corps et qu'il est monté au ciel avec son corps. Et quand nous allons voir Dieu, nous allons le voir dans son corps, avec le nôtre. Obtenir un corps nous était indispensable pour pouvoir, en tant qu'esprit, pour pouvoir progresser vers notre destinée éternelle. Nous avons reçu un corps physique pour pouvoir le présenter en fin de compte devant Dieu pur. Et c'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 23, je crois, nous dit que le corps, c'est la dernière chose qui va être rachetée. Parce qu'il ne sera pas entièrement pur. Nous avons déjà, notre âme a déjà été purifiée, c'est une belle chose, par le sacrifice de Jésus, mais notre corps, notre âme a été rachetée, mais notre corps pas encore. Romains chapitre Je crois que c'est chapitre 8, verset 23, quelque chose comme ça. Enfin, c'est dans le chapitre 3. Et notre corps n'a pas encore été racheté. C'est une chose très importante, notre corps. Très importante. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pourquoi est-ce si important que nous ayons un corps? Si ce n'était pas important, Dieu ne nous aurait pas fait comme ça. Être un esprit, ça n'est pas suffisant. Même pour Dieu. C'est pourquoi il s'est formé un corps, c'est pourquoi il est ressuscité avec son corps, c'est pourquoi il est monté avec son corps et qu'il nous attend avec son corps. Un esprit, être un esprit, ce n'est pas suffisant. Ce corps nous semble pourtant si souvent un handicap, alors on se réjouit d'en être débarrassé, on pense qu'on sera une espèce de truc éthéré qui vole dans les nuages. Non, nous aurons un corps différent, un corps glorifié, un corps spirituel, mais un corps quand même. D'os et de chair, mais nous n'aurons pas de sang, parce que le sang n'hérite pas le royaume de Dieu. Mais mes frères et sœurs, le grand principe du bonheur consiste à avoir un corps. On va me dire, ben dis donc, quel cadeau, le mien, hein. Mes frères et sœurs, il faut vous réjouir du corps que vous avez reçu. Le diable, lui, n'a pas de corps. Et il est content quand il peut posséder un corps. Quand il peut posséder le tabernacle d'un homme, quand il peut posséder le corps d'une personne. C'est très important pour lui, un corps. Souvenez-vous, quand Jésus l'a délogé du possédé de Gadara, quand il a chassé les démons, ils se sont mis à prier tout d'un coup. Ils ont prié Dieu, parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se manifester contre eux. Alors ils ont prié, ils ont supplié, ils ont demandé au Seigneur de pouvoir au moins entrer dans le corps des cochons qui étaient là. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Eh bien, ça nous montre que les démons, le diable, préfèrent avoir le corps d'un porc plutôt que de pas de corps du tout. C'est très important pour un esprit d'avoir un corps. Mais si nous réfléchissons charnellement, nous disons, oh là là, notre corps, mon corps, il me fait que des blagues. Ça va pas, j'ai mal ici, j'ai mal là, mes neurones ne fonctionnent pas bien, j'ai froid aux pieds. En ce moment, j'ai froid aux pieds. Mais ce qui me console, c'est qu'on est le 5 janvier, et donc dans un mois, c'est mon anniversaire. Ça n'a rien à voir. Juste pour rigoler un peu, vous détendre, là, je vois que vous êtes tous comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Il préfère le diable avoir le corps d'un cochon plutôt que pas de corps du tout. C'est pour vous dire comment c'est important pour un esprit d'avoir un corps. Mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez, les êtres qui ont un corps ont un pouvoir sur ceux qui n'en ont pas. Je l'avais déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est important. Et vous allez voir pourquoi je vous le redis. Écoutez bien ça, le diable n'a de pouvoir sur nous que dans la mesure où nous le lui permettons. Alors évidemment, aucun chrétien ne permet au diable d'avoir du pouvoir sur lui en lui disant « Oh diable, Satan, je te donne la possibilité de me faire du mal ». Non, ça c'est trop grossier, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus subtil. Et je vais vous montrer une subtilité, quelque chose qui est très forte, mais dont on ne parle pas beaucoup. Comment un chrétien donne-t-il du pouvoir au diable? Dès l'instant où nous nous révoltons contre quoi que ce soit qui vient de Dieu, le diable a du pouvoir. Ne serait-ce que ne pas être content parce qu'il pleut. S'il pleut, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si on râle, si on n'est pas content, si on rouspète, déjà là, on se révolte. Et alors une tristesse vient, ou la tristesse vient-elle de Dieu? Non. C'est ainsi, ou la colère, sous un exemple le plus banal, la pluie et le beau temps, mais pourtant c'est ce qui importe beaucoup dans la vie des gens. Vous vous mettez au coin d'une rue, vous écoutez ce que les gens se disent entre eux, ils parlent du temps, c'est une très grande influence sur eux. C'est ainsi que ça se passe, notre corps physique fait que ce dont nous faisons l'expérience et d'une grandeur, d'une profondeur et d'une intensité qui était impossible à atteindre dans notre condition prémortelle alors que nous n'avions pas les sens que possède notre corps. Vous savez tous ce que j'ai reçu du Seigneur au sujet de l'âme. Je le répète pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, notre âme est une création résultant de la fusion entre l'esprit éternel que nous sommes et le corps qui a été créé. On trouve ça dans Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, l'esprit et le corps, c'est ça, l'âme. Or, l'esprit, notre esprit et notre corps sont unis de telle manière que notre corps devient l'instrument de notre esprit. Il y a une matière de votre esprit qui s'appelle le corps. Et notre esprit et notre corps sont unis de telle manière que notre corps devient le fondement de notre personnalité. C'est pourquoi la Bible dit « N'obéissez pas à la chair ». La chair, ce n'est pas simplement la viande, mais c'est tout ce qui est du corps. Le corps doit être dirigé par l'esprit, mais ça peut très bien fonctionner sans. Il suffit simplement qu'il soit vivant, de par l'esprit, mais qu'il peut faire ce qu'il veut, sans l'esprit. Et là, ça devient mauvais. Alors, notre relation avec les autres, notre capacité de reconnaître la vérité et le mensonge, notre capacité d'agir en accord avec la vérité, notre aptitude à obéir aux principes, aux ordonnances de la nouvelle alliance, elles sont amplifiées par le fait que nous avons un corps physique. Dans notre condition mortelle, là où nous en sommes en ce moment, nous pouvons connaître des choses que, en tant qu'esprit, nous ne pouvions pas connaître à ce niveau-là. Nous connaissons la tendresse, l'amour, la gentillesse, le bonheur, la tristesse, les déceptions, les doutes, mais tout ça s'est amplifié par le fait que nous avons des sens physiques. On le ressent, c'est quelque chose, ça peut faire mal. Et puis il y a, alors qu'un esprit, non, c'est, un esprit n'a pas de corps physique pour ressentir toutes ces choses qui passent par les nerfs, qui passent par le plexus solaire, qui passent par toutes ces choses. Et puis il y a toutes les limites qui sont les nôtres depuis qu'on a reçu un corps qui ne peuvent pas être connues par un esprit. Il y a des leçons et des expériences que nous devons faire selon la chair, c'est clair. Tous les gens qui sont inspirés, qui ont écrit dans la Sainte Bible, ont toujours enseigné l'importance du corps. Il a fallu que la religion vienne pour dire que le corps était une mauvaise chose. Le corps a une importance ici-bas et il en aura une dans l'éternité parce que votre corps va ressusciter. Nous croyons dans la résurrection des corps. Paul dit que nous sommes le temple de Dieu et il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est grave! Pourquoi ? Parce que le temple est saint, le corps est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'il dit Paul, il dit ça dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Il dit que votre corps est saint. Alors arrêtez de dire qu'il n'est pas bien. Dieu a révélé que l'esprit et le corps sont l'âme de l'homme, de la femme. Votre esprit et votre corps constituent donc votre réalité, votre identité. Et ce n'est que quand notre esprit et notre corps sont étroitement liés qu'on peut obtenir la plénitude. Quand nous ne sommes pas intègres, c'est-à-dire quand nous ne marchons pas selon les lois de l'esprit, quand nous ne sommes pas intègres, quand nous ne sommes pas entiers, c'est-à-dire corps et esprit liés bien ensemble, eh bien nous ne pouvons pas recevoir la plénitude de joie, la plénitude de sérénité. Nous sommes divisés en nous-mêmes et ça ne va pas. Et ça déclenche même des maladies qu'on appelle maintenant, avec un bon mot, psychosomatiques. Alors, le plan de notre Père céleste, de notre Créateur, est conçu pour nous guider, pour nous aider, pour aider les enfants de Dieu à trouver justement la sérénité, cette plénitude. Et pour aussi son plan, il est utile pour nous ramener sains et saufs à lui, auprès de lui, mais cette fois avec un corps, c'est-à-dire quelque chose en plus, quelque chose que nous n'avions pas, quelque chose que nous n'étions pas, un plus, avoir un corps c'est un plus, avec un corps ressuscité, avec un corps exalté, glorifié. Et c'est pourquoi le diable s'attache à embrouiller les fils et les filles de Dieu et à les rendre malheureux, et à arrêter leur progression en vue de l'éternité. Et l'intention du père du mensonge, mes frères et sœurs, c'est de nous rendre tous malheureux comme lui-même est malheureux. Il s'efforce continuellement, avec persévérance, de pervertir les éléments du plan du plan de notre Père, des choses qu'il déteste le plus. Il pervertit tout, mais particulièrement ce qui a une grande valeur. C'est pourquoi il s'attaque à notre corps. Satan n'a pas de corps. Il en avait un, qui devait être magnifique. Il était debout, il parlait, il a réussi à séduire Ève avec. Eh bien, pour punition, son corps a été premièrement rabougri. On coupe les pattes. Non, mais c'est vrai. Il a, dans un premier temps, rabougri, puis deuxièmement, il était détruit, dans le déluge, certainement. Donc, il n'a pas de corps, et donc, sa progression éternelle a été stoppée. Il ne peut plus progresser. À cause de sa rébellion, son insoumission, à cause de son insoumission à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, il s'est privé de toute possibilité de progresser. C'est une énorme malédiction, ça. Il s'est vu privé de toutes les bénédictions, c'est ça être maudit, et de toutes les expériences que nous faisons, nous, dans la condition mortelle. C'est pourquoi il veut chercher à avoir un corps. Il ne peut plus apprendre les leçons que seul un esprit incarné peut assimiler. Il ne peut pas. Nous pouvons. C'est notre supériorité. Il est damné, c'est-à-dire dans l'incapacité de continuer à se développer. Ça, c'est ce que la religion adore. Stopper le progrès. On a encore regardé un excellent film hier soir que je vous conseille, qui est un vieux film avec Sean Connery, Le nom de la rose. Regardez ça, vous allez être édifiés. Les religieux détestent la progression. Ils n'aiment pas, tout ce qui est nouveau, c'est diabolique. Mais je vais vous parler de certaines choses ce matin pour vous dire qu'il y a un côté diabolique à la chose, mais ce n'est pas que diabolique. Mais je vais vous montrer comment le diable fait. C'est pourquoi le diable, il essaye d'empêcher tout le temps notre progression en nous tentant de faire un mauvais usage avec notre corps. Il est malheureux et il veut nous entraîner dans son malheur. Alors, l'instrument qu'il n'a pas, c'est-à-dire le corps, dont il ne peut pas faire usage d'un corps puisqu'il n'en a pas, c'est devenu sa principale cible. La cible de toutes ces tentatives pour nous attirer vers la destruction physique, premièrement, et spirituelle. Alors, il a deux modes d'attaque. Le premier mode d'attaque, il tente de nous inciter à faire mauvais usage de notre corps. Et deuxièmement, il veut nous faire croire que notre corps n'est pas très important. Et le diable est content quand un enfant de Dieu viole, par exemple, la loi de la chasteté. Et il est content quand il arrive à faire prendre de la drogue à un corps. Il est content quand il arrive à faire prendre des substances qui rendent dépendant. Il est content quand un enfant de Dieu enlaidit son corps, ne soigne pas son corps, quand il le dégrade, ou quand il se met à adorer le faux Dieu qui est l'aspect du corps. Hein, le corps, nous sommes à l'image de Dieu, mais adorer le corps, c'est une mauvaise chose, que ce soit le sien ou que ce soit celui des autres. Pour nous qui connaissons le plan de Dieu, toute profanation du corps est une rébellion et c'est un reniement de notre véritable identité. Vous savez, on sait tous qu'est-ce que c'est qui est bien, qu'est-ce que c'est qui est mal. Il n'y a pas besoin qu'on nous fasse des dessins, on le sait. C'est en nous, on le sait. La loi, elle est dans notre cœur, on le sait. Et nous avons tous la responsabilité personnelle de découvrir par nous-mêmes, par l'étude, s'il y a besoin, par la foi en ce que Dieu dit. Nous avons la responsabilité de découvrir les choses que nous devons faire et celles que nous ne devons pas faire. Ça, c'est notre responsabilité propre. Et c'est ça, veiller. Veiller, c'est pas veiller les morts. Veiller, c'est pas simplement passer une nuit en prière jusqu'à des 4-5 heures du matin à s'ennuyer, à répéter tout le temps les mêmes trucs. Si vous désirez apprendre comme Dieu le veut, c'est ça, veiller. À vous-même, c'est-à-dire veiller à vos pensées, veiller à vos paroles, veiller à vos actes. C'est ça, observer les commandements de Dieu. C'est ça, veiller et prier. C'est ça, veiller. C'est cela. Si votre désir de progresser selon le plan divin, grâce à votre corps, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, hein, qu'il soit beau ou qu'il soit moche, qu'il soit en santé ou qu'il ne le soit pas, si votre désir est de faire que ce que vous avez promis à Dieu que vous allez faire sur la terre, Si votre désir, c'est de faire ce que vous avez promis à Dieu de faire quand vous alliez venir sur la terre, vous étiez dans votre vie prémortelle, vous étiez un esprit et vous avez promis à Dieu quelque chose et vous avez répété cette promesse dans les eaux du baptême. Eh bien, si vous entretenez ce désir jusqu'à la fin, vous serez toujours éclairé en temps voulu, toujours protégé, toujours protégé. Deuxièmement, la deuxième possibilité que Satan utilise, Satan s'efforce d'inciter les fils et les filles de Dieu à minimiser l'importance de leur corps physique. Et c'est une attaque qui est très subtile, très subtile. Par exemple, c'est juste un exemple, il y a beaucoup d'autres choses on pourrait dire, peut-être on y reviendra sur d'autres prédications. Mais là, je voudrais parler de ça ce matin parce que c'est une chose importante et c'est un début d'année. Je pense que c'est le moment où on prend des résolutions et je pense que ça serait une bonne chose. Il y a un large éventail d'activités saines qui nous sont permises, qui ne servent à rien, mais qui sont permises, on a le droit de se distraire. Mais nous amoindrissons l'importance de notre corps et nous compromettons notre bien-être physique et donc spirituel, puisque tout ça est lié, quand nous poussons les choses à l'extrême. Ne mettez pas en danger, mes frères et sœurs, l'instrument que Dieu vous a donné en commettant des excès. Par exemple, votre corps et votre esprit sont étroitement liés. Je vous le disais, votre corps, c'est la matière qui vit grâce à l'esprit. Eh bien, votre corps ne sait pas faire la différence entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Votre corps ne sait pas faire la différence. Il peut éprouver des émotions très vives au sujet de choses qui n'existent pas, qui vous sont simplement suggérées. Et ça peut vous faire du mal. Je parle de ça. Je ne vais pas me faire des copains. Tant pis. Les jeux vidéo sont si bien faits aujourd'hui que notre corps y trouve des poussées d'adrénaline terribles, terribles, aussi réelles que si vous viviez vraiment la chose. Maintenant, je reviens au verset du début. Simplement, penser faire l'adultère, c'est le faire. Vous voyez ? Simplement, vous tuez virtuellement dans un jeu. Plus le jeu est fidèle, plus le jeu est précis, plus le jeu représente la réalité, plus votre corps y croit. Vous dites, mais non, c'est un jeu. Tuer une personne dans un jeu, c'est un jeu. Eh bien, tuer une personne dans un jeu vidéo cause des dégâts dans la matière qu'utilise votre esprit, dans vos cellules, dans votre plexus solaire, dans votre cerveau reptilien. Ça cause des traumatismes qui sont enfermés en vous et qui, un jour ou l'autre, vont ressurgir sous forme d'un mal-être, et vous ne saurez même pas pourquoi vous avez ce mal-être. Et maintenant, certains vont chez des hypnotiseurs pour essayer de remonter dans le passé pour savoir à quel moment il y a eu le nœud qui a été fait. Pour se débloquer la chose. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça va ressurgir parce qu'il y a un déchirement, il n'y a plus d'intégrité. Vous vivez dans le virtuel comme si c'était dans le réel et votre conscience dit non, c'est faux, c'est pas vrai. Et vous êtes donc déchiré. Il y a quelque chose, une déchirure, il y a une fêlure qui est faite. Et comme il y a une fêlure qui est faite, alors vous êtes obligé de l'enfouir parce que vous ne pouvez pas vivre en n'étant pas intègre. Donc vous la cachez. C'est inconsciemment, mais vous la cachez. Mais ce qui est caché en vous, ça déclenche toutes sortes de maux qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Que quelqu'un me prouve que ce que je dis est faux. Que quelqu'un me le prouve. En passant plusieurs heures par jour sur ces jeux, vous sacrifiez votre pouvoir relationnel réel. Vous engourdissez votre conscience en prêtant physiquement trop d'attention à ce qui n'existe pas réellement. Et c'est ça qui vous engourdit et qui vous empêche ensuite d'avoir des relations normales avec les gens. Or, souvenez-vous de la parole de Dieu, je paraphrase, tu ne gaspilleras pas ton temps à ne rien faire. Ou, ce qui vient dire, tu ne gaspilleras pas ton temps à faire du néant. Tu n'enterreras pas ton talent de façon à ce qu'il ne soit pas vu. Jouer, c'est une bonne distraction. Tout le monde joue. J'aime bien jouer, c'est rigolo, c'est amusant. Voilà, bon. Mais à l'excès, c'est une atteinte volontaire à l'intégrité de votre être physique et spirituel. C'est une atteinte volontaire. C'est un péché. Il me dit, mais Michel, tu es moyenâgeux comme les moines du film d'hier soir. Non. Les moines d'hier soir qu'on a vus, ils n'avaient pas de science établie. Nous avons une science établie. Ce n'est pas le religieux qui vous parle ce matin, c'est le scientifique. Parce que ce que je vous dis là, c'est le résultat de recherches scientifiques d'hommes et de femmes qui ne sont pas du tout religieux et qui savent que c'est comme ça. Et c'est voulu. On veut. Ceux qui manipulent, ceux qui tirent les ficelles dans ce monde veulent une génération d'abrutis. Je suis désolé de le dire, mais ils veulent une génération d'abrutis qu'ils vont pouvoir manipuler. Et bien, c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Toutes ces technologies peuvent être utilisées pour reproduire la réalité et l'augmenter et créer une virtuelle. Mais ça peut être bon aussi. Par exemple, en médecine, est-ce que vous savez que les apprentis médecins, autrefois, ils étaient obligés d'opérer des cadavres pour pouvoir apprendre comment ça se passe? Ils le font encore, mais c'est en dernier lieu. Maintenant, ils ont des logiciels de simulation et ils peuvent opérer avec des là, je vois que la sœur me dit oui, elle connaît. Hein, ils peuvent opérer d'une façon virtuelle et apprendre en répétant des gestes, apprendre à sauver des vies. Après, quand ils passeront sur un vrai corps, ils sauront comment faire parce qu'ils l'ont fait et refait et refait et refait. Et ils se sont trompés 10, 15, 20 fois. Heureusement qu'ils ne sont pas trompés sur un vrai corps. Ils se sont trompés sur des corps virtuels. Mais ainsi, ils ont appris parce que l'image est tellement fidèle, la réalité, cet objet virtuel est tellement réel que ça leur a donné la possibilité d'apprendre pour pouvoir faire. Et devenir, pouvoir être des chirurgiens susceptibles de sauver des vies. Les architectes, les ingénieurs aujourd'hui peuvent utiliser des technologies innovantes afin d'améliorer, de modéliser des méthodes de construction très sophistiquées. Et ça peut sauver des vies et ça en sauve, surtout dans les pays où il y a des zones sismiques. Ils ont réussi à fabriquer virtuellement avec des logiciels, des maisons, avec des matériaux utilisés en sachant comment ça va bouger. Ils sauvent des vies en faisant ça. Avec le virtuel, on peut aussi faire du bien. Je ne suis pas en train de vous dire que le virtuel, que tous ces trucs de logiciels, c'est du diable. Je suis en train de vous dire que c'est l'usage que vous en faites qui peut être mauvais. C'est comme l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de votre cœur, ça dépend de ce que vous en faites. Si vous en faites du néant, ou si vous en faites des choses qui sont mauvaises, eh bien c'est mauvais. Vous voyez, dans ces exemples élevés dans la simulation, ça contribue à rendre l'expérience plus efficace. Il y a donc des similarités entre la réalité et la représentation de la réalité. Ces simulations-là sont donc constructives. C'est bien. C'est très bien. Maintenant, sachant cela, écoutez, une simulation peut conduire aussi à un affaiblissement. Ça peut être un danger spirituel. Ça peut conduire à un danger réel, spirituel, dans la véritable réalité, si c'est d'une grande fidélité, c'est-à-dire si le jeu est d'une grande fidélité, et maintenant de plus en plus, tout devient comme si c'était vraiment réel, et que le but est mauvais. Si c'est d'une grande réalité et que le but est mauvais, comme par exemple faire des choses qu'on ne ferait pas dans le réel, comme tuer par exemple. Oh, mais je tue dans les jeux vidéo, mais c'est qu'un jeu. Non.
Ouais, mais j'ai commis l'adultère simplement en pensée. C'est comme si tu l'avais fait. Est-ce que vous avez pensé à ces paroles de Jésus? Ça a un impact étouffant, asphyxiant, inhibant sur votre être réel. Alors je vous en supplie, prenez garde à l'influence abrutissante de toutes ces choses qui sont utilisées pour reproduire des choses avec une grande fidélité. Je me rappelle quand les jeux ont commencé, j'étais le premier à acheter le premier jeu. Vous vous rappelez ce que c'était, les vieux? C'était un truc qu'on branchait sur la télé, puis il y avait une petite balle, puis alors on manipulait, ça faisait tic-toc. Vous vous rappelez ce que c'est? J'ai joué deux fois avec, puis j'ai dit une bêtise, machin. Et à partir de là, j'ai décidé que je n'aimais pas les jeux. Bon, mais il paraît qu'ils ont ils ont évolué. Non, j'ai vu, c'est extraordinaire maintenant. Vous pouvez être pris là-dedans. Et si le diable ne réussit pas à vous inciter à faire mauvais usage de votre corps physique dans la réalité, pour une raison ou pour une autre, par exemple, ah, je commettrais bien l'adultère avec la sœur untel, mais seulement si je le fais, je vais avoir des problèmes, donc je vais le faire dans mon cœur. Le diable n'a pas réussi à vous le faire faire physiquement, mais vous l'avez fait dans votre cœur, en pensée. Eh bien, vous l'avez fait. Dieu dit, vous l'avez fait. Eh bien, s'il n'arrive pas, le diable, à vous inciter à faire un mauvais usage de votre corps physique, l'une de ses tactiques, et la plus efficace, consiste à vous amener, à nous amener, vous et moi, qui sommes des esprits incarnés, à nous déconnecter graduellement et physiquement des choses telles qu'elles sont réellement. Et il nous pousse à penser et à agir comme si nous étions dans notre état prémortel sans corps. On le fait, mais en dehors du corps. Vous voyez cette subtilité de ruse que le diable, je vous disais le vendredi passé, jamais la jeunesse sur cette terre ne s'est trouvée devant des problèmes aussi grands. Jamais. Prenez garde aux nombreuses formes d'interaction informatique, mes frères et sœurs, qui fournissent des images et qui traitent des données qui peuvent décaler l'intégralité de vos capacités et de vos expériences physiques. Parce que si vous consacrez beaucoup de temps là-dessus, vous allez être décalé dans la vraie vie. Alors je vais m'arrêter pour ce matin. Je pense que vous avez compris ce que le Saint-Esprit a dit. Et rappelez-vous, comme je vous disais au début, il dit toujours la vérité, il ne ment pas, et lui, le Saint-Esprit, il parle des choses telles qu'elles sont réellement. Le diable, lui, il vous parle des choses telles qu'elles ne sont pas réellement. Vous voulez faire vivre dans la virtualité parce qu'il sait que ça a un impact qui est pareil. C'est terrible. C'est terrible, nous sommes en danger. Alors écoutez le Saint-Esprit, je vous en supplie. Vous dites, j'aime pas lire. Eh bien, demandez à Dieu qu'il vous donne l'amour de la lecture. Lisez la Bible, apprenez. J'ai mis sur ma page Facebook de ce matin que nous allons au culte, adorer Dieu. Et j'ai marqué aussi, c'est comme une petite ardoise, c'est marqué que le savoir permet de savoir faire et de savoir être. Dieu veut que nous ayons un savoir-faire et un savoir-être. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est le livre qui nous permet de savoir être réellement. Vous dites, oui, mais moi ça va très bien, je m'en tire très bien. On en reparlera dans quelques années. Continuez, si vous ne voulez pas écouter ce que je vous dis, si vous ne voulez pas écouter ce que le Saint-Esprit, qui ne ment jamais, qui dit la vérité et qui parle des choses telles qu'elles sont réellement, si vous ne voulez pas l'écouter, eh bien, vous serez dans quelques années la preuve que ce que j'ai dit est vrai. C'est dommage que ça soit vous. Il vaudrait mieux que ça soit d'autres. Parce que vous, je vous aime, je vous connais, je vous vois. Alors, je vous en supplie, faites attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous avertir ce matin avec ce message un peu dur, je reconnais, pas amusant. Mais je te prie de bénir cela et de permettre que nous puissions marcher de progrès en progrès et que nous nous conformions à ta parole, à ta volonté. Merci Jésus. Amen.